Je vous raconte en 5 épisodes l'histoire de l'année 1961. Dans cet épisode, le 4e, le premier rhum dans l'espace, DA, les Berlinois qui se réveillent avec un mur sous leur fenêtre, la France qui est sous le charme du couple Kennedy, et Édith Piaf qui ne regrette rien. Rien de rien.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1961.
En 1961, les Soviétiques et les Américains se tirent la bourre. Qui sera le premier à conquérir l'espace? Qui va envoyer le premier homme hors de la Terre? Et à ce petit jeu, les Russes l'emportent. Le 12 avril 1961, Youri Gagarine devient le premier homme en mission dans l'espace.
Et maintenant, écoutez Youri Gagarine, il parle à la Terre depuis le Vostok. Écoutez sa voix. Je vois la Terre, la visibilité est bonne, je vous entends parfaitement, le vol se poursuit normalement. Je vois la Terre, on peut tout voir, certains points du ciel sont couverts de cumulus. Le vol continue, tout fonctionne parfaitement, nous continuons, je me sens bien, le moral est bon. Je poursuis le vol, tout va bien, l'engin fonctionne normalement. Le commandant Youri Gagarine est revenu sain et sauf sur la Terre. Le premier vol humain dans l'espace cosmique s'est déroulé avec un complet succès.
Madame, un homme, un Russe, vient d'être envoyé dans l'espace et est revenu sur Terre. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je trouve ça formidable. Je ne sais pas si c'est blâmer ou bien être satisfaite. C'est peut-être un conte de fées, c'est peut-être un conte de bon ou de mauvais génie. L'avenir nous le dira. Mais enfin, c'est la course au bonheur et vive le progrès.
Il y a assez de choses à voir sur Terre sans aller si haut pour l'instant.
Je trouve que c'est formidable pour la Russie. C'est quand même un grand exploit, enfin, que les hommes soient arrivés à une chose pareille.
Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez appris la nouvelle?
J'ai été très étonnée et enfin heureuse, enfin pour le monde.
J'estime que c'est quelque chose de formidable et j'espère que les hommes seront assez intelligents pour mettre à profit cette expérience pour le bien de l'humanité.
Si cela pouvait vraiment nous amener la paix dans le monde, ce serait quelque chose de merveilleux. Enfin, il faudrait que les Américains soient aussi costauds que les Russes pour qu'on ait la paix, à mon avis. À mon homme, la vie.
Mais je trouve ça très bien, mais c'est tout à fait nouveau. Hein. Évidemment, les Russes sont très en avance pour envoyer cette chose-là dans l'espace, un homme. Enfin, il est revenu soi-disant malade des nerfs.
Très bien.
Oui.
Très très bien. Moi, ça m'a remué parce que j'aimerais bien y aller. Dans la Lune, oui.
Gagarine, le commandant Gagarine, le héros de l'espace, monte à bord de la voiture ouverte. À côté de lui, sa femme, Nikita Khrushchev. Et les voici, tous trois, qui au son de l'orchestre démarrent. La voiture ouverte, Zil 111, décorée de fleurs et battant pavillon. Le président du conseil de l'URSS prend son départ et démarre. Prenons le chemin de la capitale soviétique qui, avec impatience, en ces heures, attend l'arrivée de son fils héroïque, le commandant Gagarine, le vainqueur de l'espace. Le cortège s'ébranle, l'une après l'autre, les voitures.
Le vol a duré 108 minutes. En URSS, Gagarine devient un héros. Mais aux États-Unis, l'exploit est contesté parce qu'il se dit que, avant Gagarine, les Russes ont envoyé d'autres hommes dans l'espace et qu'ils sont tous morts. Le régime soviétique aurait caché ses échecs et même l'existence de ces hommes. Leur famille aurait terminé au goulag. Alors 2 jours après le vol de Gagarine, les journalistes posent la question au président soviétique de l'Académie des sciences. Est-ce que c'est vrai? cette histoire de cosmonaute fantôme.
Nesmeyanov, le président de l'Académie des sciences, a démenti formellement que l'Union soviétique ait fait d'autres essais de lancement d'un homme dans l'espace avant le voyage réussi de Gagarine. On a pu déduire aussi des déclarations faites que les soviétiques ont récupéré non seulement leur cosmonaute, mais aussi le vaisseau spatial lui-même en assez bon état pour pouvoir le réutiliser. Qu'il pourrait y avoir bientôt d'autres essais de voyage dans l'espace, que la fusée qui emportera un homme vers la Lune cette fois est déjà en construction. Mais Gagarine s'est abstenu de toute précision sur la façon dont s'est passé, c'est le cas de le dire, son atterrissage, sur l'endroit où il a atterri, sur la façon dont il a atterri. Ici Maurice Lemay qui vous parlait de Moscou, Europe numéro 1.
Les Américains perdent la première manche de la guerre de l'espace, mais ils se consolent avec ce tube de 1961, un tube de Dion, sur lequel tout le monde a dansé. Here's my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, whoa.
From a runner.
C'était Run Around Sue de Dion, cette chanson de Doo Wop qui figure dans le top 500 des meilleures chansons de tous les temps dressées par le magazine Rolling Stones. Dion a trouvé la mélodie lors d'une soirée d'anniversaire chez des amis. Personne n'avait d'instrument, alors les autres convives l'ont accompagné en frappant des mains ou en faisant des percussions avec des boîtes, des bouteilles ou tout ce qui traînait.
Europe 1, 15h, 16h, on de la traconte.
En 1961, la guerre froide entre les Américains et les Soviétiques est à son sommet. En avril, les Américains ont tenté de débarquer dans la baie des Cochons à Cuba. Un conflit mondial a été évité de peu. Et en Europe, la guerre froide se concrétise dans un ouvrage d'architecture. Depuis la guerre, Berlin est divisé en deux. À l'ouest, la République fédérale allemande, la RFA, proche des puissances occidentales. Et à l'est, la République démocratique allemande, la RDA, sous la tutelle de Moscou. Or, depuis la guerre, les Allemands de l'Est butent sur un os. Tous les ans, des centaines d'Allemands de l'Est passent la frontière pour aller se réfugier à l'ouest. Ça ne peut plus durer. La nuit du 12 au 13 août 61, change la face du monde.
Berlin est vraiment coupé en deux. Le rideau de fer est tombé à la limite du secteur soviétique et des secteurs occidentaux. Un rideau de fer constitué pour durer. Des poteaux en ciment de 2 mètres de haut, reliés par 7 rangées de fils de fer barbelés. Les routes, les rues sont barrées par des chevaux de frise et des barricades de pierre. D'est en ouest, on ne passe plus. Du moins, les Allemands ne passent plus. Car les étrangers, eux, peuvent encore aller en secteur soviétique et en revenir. Mais à condition de ne pas prendre de photos, de ne pas avoir d'appareil d'enregistrement en bandoulière de ne pas regarder de trop près les contrôles et surtout de ne pas poser de questions.
Un mur de 3,60 m de haut, 155 km de long, pour séparer la zone ouest, gérée par les Occidentaux, de la zone est, gérée par les Soviétiques.
Ce qui frappe tout de suite, c'est la rapidité avec laquelle les barrages ont été installés. À 11h15 hier soir, une femme s'est réfugiée à l'ouest sans difficulté. Un quart d'heure plus tard, les contrôles étaient mis en place dans le métro et sur les routes. Une nuit a suffi aux soldats et aux policiers pour dresser leurs barrages. Les 100 derniers réfugiés qui sont arrivés au centre de Marienfeld cette nuit sont passés à la nage par les canaux qui séparent les deux secteurs. L'opération était donc minutieusement préparée, mais l'effet de surprise a joué à fond. Les 2662 Berlinois de l'Est qui sont passés hier à l'Ouest ont été les derniers.
Chez les Berlinois de l'Ouest et de l'Est, la sidération est totale. Personne n'imaginait une solution si brutale.
À Potsdamer Platz, avec notre correspondant Jean Gau, j'ai interrogé quelques-uns de ces Allemands, tandis qu'un haut-parleur demandait à la foule de se disperser pour éviter tout incident.
Éloignez-vous de la limite du secteur, parce que vous vous trouvez maintenant sur le secteur démocratique, le secteur soviétique.
Un haut-parleur situé à proximité des deux secteurs vient de demander aux Berlinois qui sont venus regarder les vaubots installés, des barbelés et des poteaux. Ce haut-parleur leur a demandé de s'écarter un peu des fils de fer barbelés pour éviter qu'il y ait tout incident. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils pensent de cette mesure.
Je suis
très ébranlé par les mesures qui ont été prises et je n'avais pas compté sur des mesures d'une aussi grande envergure, non ?
Est-ce que vous croyez que les Occidentaux sont vraiment décidés à faire la guerre pour Berlin ?
Auch Herr Khrushchev sollte sich überlegen.
Je ne crois pas et je n'espère pas qu'on en arrivera à une guerre, mais les Russes poussent la chose au maximum et mon Dieu, il faudra employer tous les moyens pour répondre à ces attaques venant de l'Est.
La guerre, tout le monde ici y pense, mais personne n'y croit vraiment. Au cours d'une conférence de presse cet après-midi, M. Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, a dit « Nous, Berlinois, nous ne pouvons pratiquement rien faire. C'est aux Occidentaux d'agir puisque les autorités de la République démocratique allemande considèrent les accords de 1945 comme des chiffons de papier. » Mais en fait, la véritable question qui se pose ce soir à Berlin, c'est celle-ci. Comment les Allemands de l'Est vont-ils réagir ? S'ils se résignent, c'est la coupure, peut-être définitive. S'ils ne se résignent pas, alors tout est possible, comme en juin 1953. Ici Claude Guillaumin qui vous a parlé de Berlin, Europe numéro 1.
Comme promis, dans un instant, je vous parle des Kennedy. Mais avant cela, un grand tube de 1961, signé Gilbert Bécaud.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps ? Que sera ma vie ? De tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui, et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous, mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
En 1961, Et maintenant de Gilbert Bécaud devient un tube mondial. Il reste 6 semaines en tête du hit parade. Et cette année-là, les Américains élisent un nouveau président, John Fitzgerald Kennedy. Le 20 janvier 1961, le démocrate John Fitzgerald Kennedy est investi comme 35e président des États-Unis. À 43 ans, il est le plus jeune président de l'histoire. Son surnom, Jack.
Oh, say can you see by the dawn's early light all the ramparts we watched.
Le président Kennedy s'avance pour prêter serment.
You, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear.
That you will faithfully execute the office of President of the United States.
And I will faithfully execute the office of President of the United States.
And will, to the best of your ability.
And will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Il est exactement 12h53. John Fitzgerald Kennedy est maintenant le 35e président des États-Unis.
JFK insuffle une vague de jeunesse, d'espoir et de bonne humeur dans tout le pays. La veille, le crooner Frank Sinatra a organisé une soirée de gala en son honneur.
Frank Sinatra. Ella
Fitzgerald. Le président Kennedy vient maintenant le rendre hommage à Frank Sinatra.
Le monde est fasciné par ce jeune président avec sa gueule de cinéma. Et il est aussi fasciné par son épouse, Jackie. Jacqueline en vérité. Elle parle français en plus. Avec un petit accent, so sweet.
Madame, le monde entier vous connaît maintenant comme Mrs. Kennedy, la femme de l'homme qui a beaucoup de chance de devenir président des États-Unis. Votre nom de jeune fille est Jacqueline Bouvier. Est-ce que Mr. Kennedy a épousé une Française?
Non, je suis d'origine française. Ma famille est venue ici au XVIIIe siècle.
Mais vous parlez un français parfait.
J'ai passé un an à Paris, à la Sorbonne et l'école du Louvre. Alors, c'est peut-être pour ça.
Et quel cours avez-vous suivi à la Sorbonne?
J'ai suivi des cours de littérature comparée et un cours à sciences politiques.
Vous avez un bon souvenir de ce passage en France?
Ah, le meilleur souvenir.
Vous y retournez de temps en temps?
Oui, de temps en temps, j'y retourne.
Comment est-ce que vous avez rencontré John Kennedy?
Je l'ai rencontré chez des amis communs à Washington. J'habitais là avec mes parents et il était dans le Congrès.
Et vous avez un enfant, je crois?
Oui, j'ai une petite fille, Caroline, qui a 2 ans et demi.
Est-ce que vous lui parlez français un peu?
Oui, un peu, mais elle peut seulement chanter Frère Jacques maintenant.
Une fois élu, le président Kennedy et son épouse courent le monde pour se présenter. Venezuela, Égypte, Grande-Bretagne et bien sûr la France.
Et voici Jacques Kennedy, j'ai envie de lui dire Hello Jack parce qu'il est très décontracté. Derrière lui, sa femme, Jacqueline Kennedy, elle est en chapeau bleu clair, manteau bleu clair. Jacques Kennedy, et je ne le vois pas très bien parce que le général de Gaulle est plus grand que lui, et cheveux en brosse, costume bleu, chemise bleue je crois, cravate bleue également. Il salue le général de Gaulle. Le général de Gaulle dit bonjour à Madame Kennedy. Et Madame de Gaulle est également là. Le général de Gaulle est souriant. Le Jacques Kennedy est encore plus souriant. Le président de Gaulle lui présente le drapeau de l'armée de l'air. Tous les deux. Salut. Et c'est l'exécution de l'hymne américain.
Je suis auprès de la statue Jeanne d'Arc. Ici, il y a énormément de monde. Les gens sont assis de part et d'autre sur les trottoirs de la rue de Rivoli, sur 3 et 4 rangs. Le défilé accélère quelque peu. J'aperçois le président Kennedy qui est debout en ce moment dans sa voiture. Il envoie des baisers, même, oui, aux dames. Il fait des petits signes. Il sera assis à côté du président
Hello,
de Gaulle. Vous êtes américaine, mademoiselle?
Non, anglaise.
Oui, vous êtes venue voir...
Oui.
Vous entendez en ce moment les acclamations de la foule. Comment trouvez-vous le président Kennedy?
Oui, très beau.
À Paris, le 31 mai 1961, le couple Kennedy fait l'unanimité. Comme lors de cette visite d'une école de puériculture.
Madame, vous êtes directrice et vous avez guidé Madame Kennedy dans cette visite. Alors dites-moi, comment ça s'est passé?
Nous avons accueilli Madame Kennedy dans le hall. Mes élèves étaient en uniforme.
Réaction?
Et elles ont été conquises. Absolument conquises. Par le charme souriant, la simplicité de Madame Kennedy. Deux d'entre elles ont offert un bouquet à Madame Kennedy et un à Madame de Gaulle. Et puis nous sommes très rapidement, après un mot d'introduction de Monsieur le professeur Lelong, nous sommes allés dans les services. Et je crois que Madame Kennedy a été très impressionnée par ces tout-petits et très intéressée. Elle a posé quelques questions.
Et vous, mademoiselle, Madame Kennedy?
On est ravis.
Elle est très jolie.
Très simple.
Très souriante.
Très agréable.
Très sympathique.
Mais très gracieuse.
Très jolie.
Adorable.
Le président américain a bien compris que la France est sous le charme de son épouse francophone. Alors il en touche un mot lors de son allocution du 31 mai. Et la phrase restera célèbre.
I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris.
Si vous ne parlez pas anglais, il a dit, je suis l'homme qui accompagne Madame Kennedy.
1, 2, 3, 4.
Europe!
En 1961, les Vespasiennes de Paris sont au cœur d'un débat brûlant. Elles sont menacées.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1961.
C'est un débat qui agite le Conseil de Paris. Un débat politique? Non, non. Un sujet de société? Oui. Faut-il ou non détruire toutes les Vespasiennes, autrement dit les pissotières, de Paris? Mais bien sûr qu'il faut enlever tout cela, et vite! Enfin, ces édicules sont une horreur architecturale. Et ça pue. Et on raconte tout un tas d'histoires malsaines sur ce qu'il s'y passe secrètement. C'est un défi à la morale. Détruisons-les toutes. Il est vrai que les Vespasiennes sont réputées pour abriter des rencontres masculines coquines. Malgré cette mauvaise réputation et l'odeur qui les précède, les Vespasiennes parisiennes comptent un défenseur, Monsieur Fessard, conseiller municipal des 16e et 17e arrondissements.
Tous mes collègues et moi-même avons reçu de nombreuses réclamations émanant, vous le devinez, des personnes âgées. Ceux que je qualifie de prostatiquement faibles et qui, dans la journée, n'ont d'autres ressources que d'entrer dans un café, d'y payer leur consommation, que je leur conseille de ne point boire, s'ils ne veulent point être obligés d'entrer quelques instants plus tard dans un autre café pour y déverser le nouveau trop-plein, renouvelant ainsi le mythe du tonneau des Danaïdes.
Le tonneau des Danaïdes. Ce tonneau mythique, il faut remplir alors qu'il est percé. Quoi qu'il en soit, la montée au créneau de M. Fessard fait mouche.
Il y a quelques semaines, un certain nombre de mes collègues et moi-même avons déposé des projets de résolution tendant à, si j'ose dire, arrêter le massacre des Vespasiennes. Et c'est dans ces conditions que hier, 23 mars 1961, est intervenu un vote que je puis qualifier de massif, puisque 65 conseillers municipaux contre 22 ont décidé d'arrêter ce que j'appelais, au début de mes explications, le massacre de ces Vespasiennes.
Bravo donc à M. Fessard, qui en 1961 sauve les Vespasiennes de la destruction. Mais ça n'est qu'un sursis, car en 1980, les Vespasiennes seront détruites et remplacées progressivement par les Sanisettes de Gaulle, fermées et à entretien automatique. Mais il demeure une dernière pissotière à Paris. Elle est toujours utilisable, avec un pince-nez bien sûr. Perdu au milieu du boulevard Arago, au pied de la prison de la Santé. En 1961, on sauve les pissotières parisiennes et le groupe américain Marquise balance ce titre. C'était Marquise avec ce titre Last Nine qui, j'en suis sûr, vous dit quelque chose. Mais quoi, bon sang? Ah ben si. En 1961, c'est l'indicatif de l'émission culte de Denis Filipacchi. Salut les copains sur Europe numéro 1.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1961.
Vous écoutez toujours on de la traconte, deuxième heure. Et en ce début d'année 1961, Édith Piaf sauve l'Olympien. Cette année-là, Édith Piaf a déjà 25 années de carrière au compteur. Elle a 45 ans et elle est plus qu'une vedette. Elle est la voix de la France dans le monde. Or, début 61, il se trouve que l'Olympia, la salle de Bruno Cocatrix, est en danger. Il doit faire face à d'importants problèmes financiers. Alors, pour sauver son affaire, Cocatrix a une idée. Édith, je suis dans la mouise. J'ai besoin de toi, vraiment. Il faut que tu viennes chanter chez moi Les caisses sont à sec. Bruno, je dois tant à cette salle. C'est évident, enfin c'est oui. Édith Piaf ne pouvait rien refuser à la salle qui a contribué à écrire son mythe. Mais la chanteuse est très malade, elle est très affaiblie, elle souffre de polyarthrite. Ses articulations la font souffrir. Alors pour tenir debout chaque soir, elle carbure aux piqûres de morphine.
Bon, alors Édith Piaf, comme vous voyez, nous sommes dans le plus grand calme et la plus grande tranquillité. Alors je ne vais même pas parler de votre succès parce que je crois qu'il est plus que visible. Je ne sais même plus où est la caméra. Regardez un peu. Et je voudrais simplement que vous nous disiez, si vous le pouvez toutefois, comment vous avez passé ces moments qui ont précédé votre grande première parisienne.
Eh bien, je suis restée couchée tout l'après-midi pour être en pleine forme ce soir.
Qu'est-ce que représente pour vous? Taisez-vous un peu les photographes, s'il vous plaît. J'aimerais que vous essayiez de nous dire aussi ce que représente pour vous cette grande première parisienne.
Oh ben, ça représente tout. Tout. Tout ce qu'on peut souhaiter, tout ce qu'on peut imaginer de merveilleux.
Est-ce que vous avez eu le trac?
Oh, mais on a toujours le trac.
Même à Paris?
Ben, encore pire.
Encore pire à Paris.
Partout.
Mais vous avez vu que vous avez été recouverte non seulement d'applaudissements, mais de signes d'affection et de témoignages dont nous avons tous été témoins qui ont dû vous bouleverser.
Ah, ça oui, ça c'est vrai.
Vous avez reçu du courrier avant
de... Beaucoup de lettres de tous les coins de France.
Quel genre de lettres?
Des lettres vraiment formidables que je garde pour moi parce que ça c'est personnel.
Un jour, deux jours, huit jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Et le temps de s'adorer, de se le dire. Et le temps de se fabriquer des souvenirs.
En ce début d'année 1961, pour la première d'Edith à l'Olympien, le tout Paris a fait le déplacement. Arletty est là, et Michel Morgan, et Marlène Dietrich, et Dalida, et Georges Brassens, et Jean Marais, et Michel Simon, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, et même des stars du jazz américain comme Duke Ellington et Louis Armstrong sont là. Cette série de concerts à l'Olympien est une réussite. Et c'est à cette occasion que pour la première fois, Édith Piaf interprète cette chanson que lui ont offert Charles Dumont et Michel Vauquer. Non, je ne regrette rien. Alors maintenant, vous allez fermer les yeux. Nous sommes le 3 février 1961. Édith Piaf est là, toute frêle, sur la scène de l'Olympia. Non, elle ne regrette rien. Et non, on ne devine pas la douleur qu'elle endure.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro.
Malgré la fatigue et la maladie, ce soir de février 1961, Édith Piaf livre une prestation exceptionnelle, l'une des plus belles de sa carrière. La suite de notre exploration de l'année 1961 dans le 5e épisode d'Ondelat raconte une année.
Retrouvez Ondelat raconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.